Demain à 13h30 au palais de justice de Versailles, ouverture du procès de Lucien Léger, accusé de l'enlèvement et de l'assassinat du petit Luc Taron, âgé de 11 ans. Le 26 mai 1964, à la fin de l'après-midi, Luc Taron quitte le domicile de ses parents rue de Naples. Le lendemain à l'aube, dans les bois de Verrières, sous un chêne, un passant découvre le corps de Luc, la face contre terre. Et voilà qu'un inconnu qui signe l'étrangleur répand sa prose dans les journaux. L'étrangleur téléphone aux policiers, aux reporters. Il nargue la police. Il raconte comment, ayant rencontré Luc Taron au métro Étoile, il l'emmena dans son auto et l'étrangla dans la forêt.
L'affaire Lucien Léger. Un documentaire d'Alexandre Hérault et Yvon Croisier. Épisode 2. Le prix de son silence.
Léger, il va jusqu'au bout de sa démarche, je crois, de faussaire, parce que moi je pense que c'est un faussaire.
Jean-Louis Vanni, auteur du voleur de crime.
En fait, il faut parler de la personnalité de Lucien Léger, quand même un peu. Lucien Léger est un enfant d'ouvrier, d'une famille nombreuse, de l'Est de la France. Il va très vite se démarquer de ses frères et sœurs par son goût de la lecture, par son goût du cinéma, par son goût de la musique. Il écrit des poèmes, il écrit un pamphlet, il écrit un début de polar qui s'appelle « Journal d'un assassin ». En fait, c'est l'acte gratuit, quoi. Le gars descend sur un boulevard, il a un revolver et il tire sur le premier venu. Mais il y a une chose dans ces deux chapitres, c'est que le héros, si je puis dire, il prend soin de bien voir comment réagit la presse.
Il ne pouvait pas se douter que ce journal d'un assassin qui va être trouvé donc chambre d'hôtel, meublé, va devenir le principal acte d'accusation.
Ah mais c'est l'acte d'accusation. C'est on ne va pas chercher d'autres preuves. C'est comme si on avait arrêté André Gide dans les années 30 pour les caves du Vatican.
Alors ça, évidemment, ça intéresse les magistrats parce que ils se disent, mais finalement, est-ce que là, il n'y aurait pas une sorte d'ébauche écrite d'un dispositif qui va être réalisé quelques mois plus tard, en vrai, sur la personne d'un enfant.
Stéphane Troplin, auteur du voleur de crimes.
Pour le magistrat instructeur, ce qui est important là-dedans, c'est la question du mobile. C'est-à-dire que là, il tient son mobile, il se dit, tiens, Lucien Léger a voulu exister à travers un crime. Il l'a d'abord fait sous une forme purement littéraire. Peut-être que, à partir de cette ébauche de roman, Lucien Léger a voulu trouver une reconnaissance qu'il n'a pas pu avoir par la littérature à travers la réalisation d'un vrai crime. Ce qui fera dire au défenseur de Lucien Léger, Maurice Garçon à l'époque, que ce serait bien la première fois qu'un auteur serait condamné pour des crimes commis par ses personnages.
Moi, ce qui m'attire, ce qui m'intéresse, c'est la différence entre les apparences et ce qu'il y a vraiment derrière, entre la surface et la profondeur. J'ai toujours envie d'écarter le rideau, d'aller voir derrière. Et là, j'ai assez vite compris qu'il y avait une énorme différence entre ce personnage et l'étrangleur, entre Lucien Léger et le personnage qui est l'étrangleur.
Philippe Génada, auteur de « Au printemps des monstres ».
Et puis, plus je creusais, plus je me rendais compte que beaucoup de choses clochaient, beaucoup de choses n'allaient pas. Des gens ont menti, quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui était son avocat, Maurice Garçon, qui était presque une... J'ai parlé de lui dans plusieurs livres avant. Puis d'un coup, je me suis rendu compte que Maurice Garçon avait menti, avait trahi son client. Et puis, parce que, voilà, c'est un homme qui est le contraire de ce qu'on pensait qu'il était. On a présenté Lucien Léger comme le monstre dans une société de bonne famille, de bons gens. Les parents du petit Luc étaient la pauvre famille française moyenne, frappée par un sort cruel, et Lucien Léger le monstre. En vrai, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Lucien Léger n'est pas un ange, mais c'est vraiment plutôt quelqu'un de bien, c'était plutôt quelqu'un de bien, je pense, sincèrement. En revanche, autour, plus j'avançais, plus je trouvais des personnes qui mentaient, qui trichaient. De tous les côtés, partout où je tournais mon regard, je tombais sur des gens menteurs, malfaisants, qui avaient trompé leur monde depuis le début. Et le plus sincère, c'était Lucien Léger, en fait. C'est ça qui m'a, tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être dans un cauchemar ou un rêve, d'être dans un monde où tout est en négatif, où tout ce qui a été dit depuis 60 ans maintenant sur cette affaire, il faut prendre tout à l'envers, et le blanc devient noir et le noir devient blanc.
Ce Lucien Léger, c'est un monsieur tout le monde.
C'est la parfaite antithèse de l'étrangleur, vraiment. Lucien Léger, à l'époque, a une bibliothèque qui compte à peu près 600 ouvrages. Lucien Léger est quelqu'un qui lit énormément, et nous avons remarqué une présence vraiment considérable de livres qui traitent du problème algérien. Alors, plutôt du point de vue plutôt pro-FLN. Par ailleurs, il a, dans les mois précédents, opéré une sorte de reconversion professionnelle dans le médical, et il poursuit assidûment des cours d'élèves infirmiers psychiatriques. Ses supérieurs louent à la fois son intelligence, son dévouement auprès des malades, son sérieux, et il compte parmi les meilleurs, sinon le meilleur élève infirmier psychiatrique à l'hôpital de Villejuif.
Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire, j'ai trouvé deux personnes en France, c'est-à-dire deux personnes sur Terre, qui pensait que Lucien Léger était innocent, ce qui est très rare. Il y a même des gens, je pense, qui pourraient vous dire « Guy Georges, finalement, c'est pas un si mauvais garçon, etc. » Lucien Léger, il y avait une unanimité vraiment surprenante. Il y avait uniquement Stéphane Troplin et Jean-Louis Vanni, à qui je me suis accroché, qui pensaient qu'il était innocent.
Et puis on se rend compte, Philippe Génada, et c'est là peut-être le plus étonnant à vous lire, que les monstres ne sont pas ce que l'on croit une fois de plus, qui font même passer ce petit monstre qu'est Lucien Léger pour, pas un enfant de cœur, mais en tout cas quelqu'un qui ne méritait pas ce châtiment, devenir le plus vieux prisonnier de France.
Oui, et puis qui a permis aussi de comprendre pas mal d'autres choses, c'est-à-dire que dans les 13 demandes de remise en liberté conditionnelle qui ont été refusées, peut-être pas les premières, mais en tout cas à partir de la 5e ou 6e demande, la commission qui était chargée de juger ça donnait un avis favorable pour une mise en liberté, et ça a toujours été refusé par les différents ministres de la justice, y compris Badinter, donc qui ont refusé avec des raisons. Donc la principale était, il continue à clamer son innocence, il refuse d'avouer son crime, ça signifie que c'est un homme dangereux qui n'a pas pris conscience de l'horreur qu'il a commise, donc on ne peut pas remettre en liberté un homme dangereux. C'est-à-dire que vraiment, si Lucien Léger, qui est sorti en 2005, hein, si en 1992, il avait dit « bon, allez, d'accord, c'est moi », il sortait aussitôt.
Pour commencer la galerie de ces personnages torves, Philippe Génada, on va commencer par les parents du petit Luc Taron.
Oui, ce qui est assez surprenant, moi, ce qui m'a un peu interpellé au début, c'est que les parents, et quand je dis les parents, c'est surtout le père, Yves Taron, sont extrêmement présents dans les médias, mais alors, ce qui est un peu normal, hein, ils ont perdu leur enfant, mais alors le père, petit à petit, on en parle presque plus dans les médias que de Lucien Léger lui-même, et avec une hargne, une agressivité, etc. Et en fait, quand on regarde, ils ont évidemment été interrogés de nombreuses fois, ils ont même été mis en garde à vue, ce qu'on a très peu dit dans la presse à l'époque et qu'on a vite balayé, mis sous le tapis, mais ils ont été mis en garde à vue, c'est-à-dire que les policiers à l'époque ont sincèrement pensé que Yves Taron avait quelque chose à voir dans la mort de son fils, et je suis persuadé qu'ils avaient raison. Je dis pas qu'il l'a tué, mais qu'il a toujours su qui avait tué son fils, que c'était pas Lucien Léger, et que le père sait pendant des années et des années. Une des raisons pour lesquelles on laissait pas sortir Lucien Léger de prison, même 40 ans après le crime, c'est qu'on disait, parce que le père, dans tous les médias, disait « s'il sort, je le tue de mes propres mains ». Et donc la justice française disait « ben non, on peut pas le laisser sortir, il va être en danger, le père va le tuer ».
Stéphane Troplin, Lucien Léger trouve un soutien qu'il attendait de tous ses voeux, celui du plus célèbre avocat de France, maître Maurice Garçon.
Maurice Garçon, qui est effectivement un des plus grands avocats français. Il s'est fait connaître au cours d'affaires célèbres, hein, l'affaire Girard, pour rester dans l'univers de Philippe Génada et de son livre « La Serpe ». Et qui s'est exprimé au cours des semaines précédentes, alors que l'identité du scripteur n'était pas connue, sur la manière dont il aurait à défendre l'inculpé.
Le diable.
Voilà, si l'inculpé acceptait sa défense. La folie passagère, je plaiderais le diable, enfin, une sorte de possession démoniaque. C'est l'angle qu'il souhaiterait choisir. En tout cas, clairement celle de l'irresponsabilité. Lucien Léger, lorsque le juge lui demande quel avocat il a choisi, Lucien Léger dit tout de suite Maurice Garçon. Lucien Léger lui dit qu'il est innocent du crime, qu'il est bien l'auteur des lettres, il va lui donner une version des faits. Mais Maurice Garçon pense que cette version n'est pas suffisamment solide pour convaincre les jurés et lui dit non, ça va, avec ça on va dans le mur, il faudrait qu'on plaide l'irresponsabilité pénale, ça suppose de maintenir les aveux. Sauf que on sent aussi que Maurice Garçon, au cours de l'instruction, perd un peu pied, c'est-à-dire que d'abord Lucien Léger alors non seulement il se rappelle pas de tout, mais en plus il commet énormément d'erreurs dans ses déclarations. Par ailleurs, les expertises psychiatriques qui sont commandées par le juge sont pas favorables à l'inculpé, et pour cause. Lucien Léger est parfaitement sain d'esprit. Donc en juin 65, Maurice Garçon constate que sa stratégie a échoué. Maurice Garçon abandonne le dossier et le confie à un éminent défenseur qui s'appelle Alberno, qui porte l'abolition de la peine de mort au cœur de ses plaidoiries.
Au bout d'un an d'incarcération, Lucien Léger dit « c'est pas moi ». Et Maurice Garçon a fait semblant d'être outré et a dit « je ne peux plus assurer la défense de cet homme, il est fou, ça fait un an qu'il dit que c'est lui, maintenant il dit que c'est pas lui ». Sauf que moi, je suis allé dans les archives de Maurice Garçon. Il est écrit noir sur blanc que le premier jour, la première chose que Lucien Léger dit à Maurice Garçon, c'est « je suis innocent, c'est pas moi ». Maurice Garçon lui répond « vous êtes fou, personne ne va vous croire, si vous dites ça, on va vous couper la tête, faites-moi confiance, on va dire que vous êtes fou, il faut être fou pour faire un truc pareil, vous sortirez ».
2 mai 1966.
Demain à 13h30, au palais de justice de Versailles, ouverture du procès de Lucien Léger. Après s'être vanté d'être l'auteur de ce crime odieux, Léger, détenu depuis 2 ans, se déclare aujourd'hui innocent. Le procès durera 5 ou 6 jours. Les 12 jurés décideront, selon leur intime conviction, du sort de Léger. S'il est reconnu coupable et responsable de ses actes, c'est la peine de mort.
Et donc, Alberno a pris le relais. Il y a une lettre de Maurice Garçon à Alberno. Je vous fais confiance, vous réussirez à lui éviter la peine de mort. Il faut penser qu'à cette époque-là, il y avait la peine de mort et que ça fausse tout. C'est-à-dire, en fait, non seulement la peine de mort fausse tout parce que ça coupe la tête parfois de certains innocents, mais surtout ça fausse les défenses. C'est-à-dire qu'Alberno a plaidé lors du procès. Lucien Léger disait « c'est pas moi, je suis innocent ». Alberno, son avocat, disait « n'écoutez pas mon client, c'est lui. Il est fou, mais c'est lui » parce qu'il avait peur qu'on lui coupe la tête. Et donc, Alberno a réussi quelque chose d'incroyable, c'est d'éviter qu'on coupe la tête à celui qui était considéré comme un monstre, mais il a plaidé contre son client.
« 7 mai 1966.
Je reviens au verdict du procès de Lucien Léger. Il y a eu un incident à la fin du procès, au moment du verdict. Le Frédéric Potcher est en ligne. Je pense qu'il peut donner et tirer les conclusions de ce procès assez sensationnel de Versailles.
Cette condamnation a été acquise après 2h15 de délibération et 5 longues journées de débat. Ce matin, après la lecture par le président d'une longue lettre rédigée cette nuit par Léger, dans laquelle ce dernier se défend d'avoir tué le petit Luc, après les adjurations parfois pathétiques mais inutiles du président, des avocats des parties civiles, de l'avocat général, de Maître Nau, avocat de la défense, à Léger, de dire le nom de l'étrangleur ou de se reconnaître le coupable, on a entendu Maître Vignol et Vitzavona soutenir que Léger était bel et bien l'assassin de Luc Taron et que Léger était un habile simulateur d'une forme particulière de démence partielle.
En fait, le seul qui a un petit peu compris ce qui arrivait à Lucien Léger, c'est Jacques Salz. Jacques Salz était un graphologue qui avait trouvé une nouvelle méthode, la graphométrie. Et à partir de l'écriture, il savait dire... Bon. Et il pensait que Lucien Léger, il l'a dit au procès, cité par la défense, que Lucien Léger avait une tendance à la paranoïa et aussi à la mythomanie. Et il invente ce personnage de l'étrangleur. Je suis certain que Lucien Léger n'a pas tué Luc Taron. Mais il n'est en rien innocent.
«
Au procès, on a trois vérités qui s'opposent. La vérité judiciaire qui est issue du dossier d'instruction, Lucien Léger coupable, pourquoi ? Par recherche de la reconnaissance. Comment ? Par une rencontre fortuite avec sa future victime, jusqu'au geste criminel qu'il a accompli. Voilà la version judiciaire. Il y a la vérité de l'avocat, deux errances qui se rencontrent, une nuit qui s'installe et un crime commis par une sorte d'abandon de la conscience. Donc ça, c'est la deuxième vérité, celle de l'avocat. Et puis il y a la troisième vérité, celle de Lucien Léger. Je suis l'auteur des messages, j'ai volontairement induit en erreur les policiers, je connais le meurtrier et je dois m'acquitter de cette promesse que je lui ai faite, donc je ne révélerai pas son identité.
Et je vous le dirai ?
À la fin des débats, lorsque vous aurez prononcé la condamnation.
Il agace tout le monde, à la fois il stupéfait sur les bancs de l'accusation la famille, mais les journalistes aussi, même Frédéric Potcher ne mâche pas ses mots sur cette façon qu'il a de toujours vouloir manipuler et induire les gens en erreur.
C'est exactement ça. Ce qui choque là, l'opinion publique, c'est le côté manipulateur de Lucien Léger, le fait que, une fois de plus, et jusqu'au bout, il va distiller cette vérité que lui seul maîtrise, dont on serait bien en peine de faire la part du vrai et du faux, et cette espèce de position un peu stupide de vouloir donner l'identité du meurtrier à l'issue des débats.
À la fin de sa plaidoirie, Maître Vizzavona s'est écrié: vous n'oublierez pas, messieurs les jurés, qu'il n'y a pas d'exemple qu'un condamné à la réclusion perpétuelle ait purgé sa peine jusqu'à la fin de ses jours. Vous n'oublierez pas son crime horrible, son attitude, ses mensonges perpétuels. Non, messieurs, vous n'oublierez pas tout cela. C'est pourquoi, à la question sur les circonstances atténuantes, vous répondrez non. Eh bien, vous savez que les jurés de Versailles ont répondu oui aux circonstances atténuantes. Le président, Maître Nau, vous avez la parole. Le défenseur de Léger parlera une heure et demie, disant qu'il n'avait aucun contact avec Léger pour lequel il avait une immense pitié. Maître Nau fait revivre Léger enfant pas heureux, adolescent triste, homme insatisfait, perpétuellement insatisfait, et cherchant à se trouver dans l'altruisme ou dans le sacrifice. Solitaire, taciturne, isolé, oui, dit Maître Nau, Léger et Luc sont faits pour se rencontrer et se comprendre. Non, messieurs, il n'y a pas eu de préméditation, il y a eu impulsion, une sorte de défoulement formidable de tant d'années tristes. Et ensuite, dit Maître Nau, il a eu horreur de lui. Lui, ce réformé, ce faiblard, qui porte le complexe du ratage et qui découvre soudain en lui un autre personnage, un personnage qui va l'envahir, le dépasser. Cela n'est pas nouveau. En fait, Léger se dédouble, pense Maître Nau. Le jour, c'est un saint, un secouriste et un infirmier, d'une bonté, d'une charité inépuisable. Mais la nuit, les manchettes des journaux qui affichent l'étrangleur à tous les coins de rue le hantent et le dédoublement se poursuit, car chaque jour recharge l'actualité. Maître Nau, mon échec, messieurs, car je ne suis pas arrivé à le convaincre, à le comprendre, à le trouver. Mon échec, c'est la meilleure preuve que c'est un fou. Donc, je vous en supplie, pas la mort. Le président, Léger, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Léger, livide, se lève. Rien, monsieur le président. Je vous répète le verdict, mais voici Colombe qui arrive. Colombe, je vous laisse la parole.
Oui, eh bien justement, il vient de se passer un coup de théâtre assez extraordinaire. Léger a entendu le verdict, s'est levé et a dit « Monsieur le Président, vous venez de commettre une erreur judiciaire ». Et en se tournant vers Monsieur Taron, « Monsieur Taron, connaissez-vous Georges-Henri Molinaro ?» Alors, dans la salle, il y a eu un cri. Monsieur Taron a dit « C'est une dernière plaisanterie ». Léger a dit « Non, mon frère amènera des preuves, il a une photocopie de la lettre de ce monsieur Molinaro ». Et pourquoi avez-vous attendu tout ce temps, lui dit le président. Léger répond « Je voulais prouver qu'on pouvait faire des erreurs judiciaires, qu'on faisait des erreurs judiciaires en cour d'assises ». Le président conclut en disant « Léger, envoyez-moi ce soir une lettre avec tous les détails et nous verrons ce que nous pourrons faire ». Voilà ce qui vient de se passer à l'instant dans la salle d'audience du tribunal de Versailles.
Donc, au moment effectivement où, à l'issue du verdict de la réclusion criminelle à perpétuité, Lucien Léger balance un nom que les magistrats connaissent, puisqu'il figure au dossier, Georges-Henri Molinaro, il y a une forme de soulagement effectivement en se disant « Tiens, on va enfin connaître la vérité sur cette affaire trouble ». Mais ce qui est singulier là-dedans, c'est qu'on prononce un verdict qui, à l'époque, ne souffre pas d'appel. Or, quelques minutes après l'énoncé du verdict, la police mène une enquête sur demande du procureur. On interroge toute la nuit Lucien Léger sur ses déclarations et sur ce qu'il sait du meurtrier. Comment je pourrais dire ça ? Le verdict paraît quand même bien fragile.
Alors, soyons clairs. Je ne doute pas. Lucien Léger n'est pas l'assassin. Mais ce dont je doute, c'est de la société à faire bonne justice. Mais en même temps, aujourd'hui, le temps a passé. Ce qui me reste aujourd'hui, et je le dis franchement, quitte à fâcher des gens, c'est le personnage de l'étrangleur qui m'intéresse. Je trouve que Lucien Léger est un, puisqu'il est innocent, est un très beau personnage. Complexe, multiple, insaisissable. Ne me demandez pas, je dirais pas attachant. Même s'il a été un peu mon ami dans les derniers mois, puisqu'on s'est rencontrés, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Il m'a marqué dès ce fameux dimanche 5 juillet 1964, alors que j'attendais Jacques Anquetil. Ça m'a marqué. Je ne sais pas qui a tué Luc-Taron.
Mais s'il y en a un qui devait savoir, Jean-Louis Ivani, c'est bien lui. Pourquoi ne nous l'a-t-il jamais livré ? Même le livre qu'il devait écrire...
Oui, la part du silence.
La part de mon silence ne le livre pas.
Parce qu'il ne le sait pas. Léger est intervenu au tout début de l'enquête. Il a pris ça en main, il a intercepté. Et il s'est dit, je vais trouver une légitimité. C'est ça l'histoire de Léger. C'est un jeune homme à la recherche, à la quête de légitimité. Parce qu'il sait que la société lui dira, ne n'éditera pas sa pièce de théâtre, n'éditera pas son polar. Alors, c'est abominable. C'est naïf aussi. Mais lui en a pris, vous croyez pas ?
J'ouvre à la page 313, Philippe Génada, au printemps des monstres. C'est toujours pareil dans ce bazar, j'en ai marre, tout est possible, presque tout est crédible, presque rien n'est probable, et jamais rien n'est sûr.
On peut tout envisager, c'est-à-dire qu'on peut envisager que Lucien Léger a tué un enfant pour qu'on parle de lui et qu'il a ensuite revendiqué que c'est lui le coupable. On peut imaginer que Lucien Léger a entendu parler du crime et, sans rien avoir à faire avec tout ça, s'est dit « je vais faire croire que c'est moi, je vais revendiquer pour qu'on s'intéresse à moi ». Il y a toute la gamme des possibilités entre la culpabilité de Lucien Léger et l'innocence totale de Lucien Léger qui aurait simplement fait une mauvaise blague. Je suis convaincu que Lucien Léger n'a pas tué le petit Luc Taron. Mais je pense très sincèrement qu'il a quelque chose à voir avec tout ça. C'est-à-dire que je pense que Lucien Léger connaissait Yves Taron. Je pense que Lucien Léger connaissait Jacques Sas. Lucien Léger a dit qu'il y avait un autre type qui s'appelait Molinaro. Donc moi, je crois sincèrement que Lucien Léger a été utilisé par ces gens, Yves Taron, Jacques Sas et peut-être Molinaro, comme un pigeon. Et ensuite, il s'est construit une sorte d'histoire parce que Lucien Léger était quelqu'un qui était plutôt d'extrême gauche. Qui pensait qu'il avait intégré une sorte d'organisation qui œuvrait pour le FLN contre l'OAS. Je pense qu'en réalité, Yves Taron, ça c'est une certitude, était quelqu'un d'extrême droite qui soutenait l'OAS. Jacques Sas, qui toute sa vie s'est présenté comme un homme pour la paix, la justice, qui avait été résistant, etc. Moi, j'ai trouvé les preuves que Jacques Sas avait été collabo. Et donc Lucien Léger, qui croyait œuvrer avec une équipe qui était de son côté, s'est fait utiliser par ce qu'il les haïssait le plus au monde, c'est-à-dire l'extrême droite, l'OAS, toutes ces choses-là. Et donc, Lucien Léger a accepté d'aller en prison avec la conviction qu'on allait venir le libérer. Et pendant plusieurs années, vraiment, ça paraît incroyable, mais Stéphane Troplin vous l'a peut-être dit, mais moi, j'ai jamais connu Lucien Léger. Stéphane Troplin l'a côtoyé, était même son seul ami à sa sortie de prison. Il me dit... Lucien Léger, s'il avait une seule qualité, C'était la parole donnée. Et donc Lucien Léger s'est senti tout d'un coup un rôle très important. Il a dit d'accord, c'est moi, et je vais aller en prison. Et puis quand Lucien Léger s'est rendu compte qu'il avait été abandonné, trahi, que personne ne venait l'aider, il a essayé, 10 ans plus tard, à la mort de sa femme, il a dit maintenant je vais dire toute la vérité. Et là c'était trop tard. Il criait au fond de sa cellule, mais c'était fini. Je pense que vraiment c'était un homme bon qui avait des principes solides et sincères. Et toute sa vie, il a été empêtré d'avoir été quand même mêlé, non seulement à une histoire d'extrême droite et de vraiment de sale type, mais d'avoir été indirectement mêlé quand même à la mort d'un enfant.
Un enfant mort, pourquoi ?
Il faut lire le livre, hein, si vous voulez. Non, ça s'explique assez. C'est une histoire d'argent, de politique, de vengeance. Enfin, c'est très, très, très complexe. Et évidemment, rien n'est sûr et concret et avéré. Mais on comprend que c'est une vengeance contre le père Yves Tarron.
« 31 août 2005.
Aujourd'hui, Lucien Léger a 68 ans. Il est en prison depuis 41 ans, ce qui fait de lui le plus ancien détenu de France et d'Europe. Il a fait 13 demandes de libération conditionnelle, tout aussi infructueuses les unes que les autres. Et la quatrième, aujourd'hui, a été la bonne, puisque ce matin, la cour d'appel de Douai a accédé à sa requête.
D'après l'avocat et le parquet général, la cour d'appel reprend en grande partie les arguments des magistrats de la première instance qui avaient déjà dit oui en juillet dernier, estimant en substance que tous les indicateurs étaient au vert et que c'était maintenant ou jamais. Le parquet général plaidait pour un maintien derrière les barreaux. Les juges du siège indépendants ont tranché pour la réinsertion.
Il est sorti en 2005, hein, c'est fou, il est sorti quand Albert Nau, Maurice Garçon, Yves Tarron, tous les autres étaient morts depuis belle lurette. Et il est sorti et 3 ans plus tard, il est mort.
Bon, je rappelle que lorsque Lucien Léger a été libéré en 2005, quelques mois après sa libération, une dizaine de détenus de Clairvaux, par une lettre ouverte, réclamaient pour eux-mêmes l'application de la peine de mort. C'est l'appel des 10 ans murés vivants de Clairvaux. Et eux, par provocation désespérée, interpellaient la justice française. Pourquoi avoir aboli la guillotine si c'est pour réintroduire une forme perverse de peine de mort qui ne dit pas son nom et qui consiste à ôter la vie sans donner la mort? Et Lucien Léger, c'est le seul détenu qui a accompli une durée aussi exceptionnellement longue d'incarcération et qui était toujours, à sa sortie de prison, en pleine possession de ses facultés intellectuelles et en capacité de se battre pour faire reconnaître à la fois cette question de la peine de mort lente et puis le combat pour son dossier personnel, pour cette vérité qu'on a défendue dans notre livre et que Philippe Jalinada a lui-même exposée. Lucien Léger n'a pas commis le crime qui lui a valu cette condamnation à perpétuité.
L'affaire Lucien Léger. Épisode 2, Le prix de son silence, avec Philippe Jalinada, auteur de Au printemps des monstres, aux éditions Mial et Barreau. Stéphane Troplin et Jean-Louis Ivani, auteur de Le voleur de crime, aux éditions du Ravin Bleu. Archivina, Pierre Pinault. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard. Attaché de production, Sylvia Favre. Les pages web, c'est sur franceculture.fr. Et le podcast sur l'appli Radio France.